CFM, le mag.
Bonjour à tous, bonus track, j'ai envie de dire, dans le mag aujourd'hui, une émission consacrée cette semaine, pour la quatrième semaine d'ailleurs, au CRPS de Rodez, Centre de Réhabilitation Psychosociale. Je vous parle de bonus track, puisqu'au début j'avais annoncé 3 rendez-vous, et bah finalement ça sera 4. Voilà pourquoi ce bonus track, et j'utilise ces termes, ce vocabulaire, puisque celui qui est à l'initiative de ce projet de médiation thérapeutique à base de musique et de musique assistée par ordinateur en particulier, c'est Cisco, Francis Esteves, qui est avec nous dans les studios. Bonjour Francis.
Salut.
Bonus track, ça se dit, c'est pas trop vieux jeu.
Non, oui, en plus ça va très bien sur le thème, sur la musique, c'est bonus track.
Tu, je le rappelle, mènes des ateliers toutes les semaines au CRPS rue ABB Sous de Rodez. Hein.
Oui.
Et donc des ateliers, et on l'a découvert les semaines précédentes, dans lesquels tu les amènes à chanter, jouer de la musique, notamment, mais pas que.
Ça fait partie de notamment. En tout cas, voilà, le fil conducteur, effectivement, c'est déjà de pouvoir pratiquer.
La musique, et comme on l'a découvert les semaines précédentes, des titres super, et comme on va encore le découvrir dans cette émission avec, je sais pas si c'est... Oui, c'est une chanson que tu t'as amenée.
C'est une chanson, une reprise, mais une réinterprétation, j'aime bien ce mot. J'aime bien les amener à chaque fois chercher un peu dans l'ailleurs. Donc on réinterprète les choses, on se les approprie, on en fait aussi tout ce qui émane de notre personnalité, quoi.
Et c'est le fruit donc du travail, de ces ateliers que tu mènes depuis la rentrée dernière, là, depuis le mois de septembre. Hein.
Que je mène... à l'invitation, oui, du CRPS. Effectivement, je suis pas à l'initiative, c'est vraiment l'équipe du CRPS qui sont à l'initiative du projet et qui m'ont sollicité en tant que voilà, plus sur l'apport technique et effectivement sur mes compétences en médiation culturelle thérapeutique, quoi.
Alors, à ces ateliers d'ailleurs auxquels participent des soignants du CRPS de Rodez, on a eu Olivier Rabereau les semaines précédentes, notamment infirmier et psy, et avec nous encore aujourd'hui dans les studios Pierre Kivitz. Bonjour monsieur Kivitz.
Bonjour David.
Alors Pierre Kivitz, vous êtes psychiatre.
Oui.
Vous êtes aussi en même temps le responsable de la filière réhabilitation psychosociale au centre hospitalier Sainte-Marie.
C'est exact, oui. Hein,
et vous avez en charge, comme on dit, le CRPS de Rodez.
Oui, je suis médecin référent du centre de réhabilitation psychosociale, CRPS, qui est un peu la structure pivot, le centre névralgique de la réhabilitation à Rodez.
D'accord. Vous êtes un peu le chef, on dit ?
Je suis médecin-chef, alors ça ne me donne pas tout pouvoir, rassurez-vous.
Mais... non, mais enfin, quand même, aussi. À un moment donné, vous avez dit oui à Cisco, vous l'avez appelé pour lui proposer de rejoindre cet atelier. Pourquoi, vous, psychiatre, vous voyez un intérêt à ces ateliers autour de la musique et de la MAO en particulier ?
Je pense que c'est essentiel depuis un certain nombre d'années déjà. Alors, cet atelier s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle les projets culture et santé. Donc on a répondu à un appel à projet, hein, donc projet culture et santé, avec l'objectif de permettre à un public d'y empêcher, entre guillemets, on précisera peut-être un petit peu ce terme, d'accéder à une pratique artistique de qualité, des activités culturelles. Et là, avec Cisco, on est vraiment sur une pratique artistique de qualité. Mais indépendamment du dossier, de la configuration, du cadre, c'est surtout une rencontre avec Cisco. J'en dis deux mots, je l'ai rencontré via Jean-François Labitte, en fait, que vous connaissez bien, musicothérapeute impliqué dans de multiples projets. Et il m'a dit, tu dois rencontrer Cisco. Cet artiste engagé, il travaille déjà avec certaines institutions et il peut apporter quelque chose à la réhab, donc la réhab, réhabilitation psychosociale. Et de fait, je constate, donc on m'avait prévenu, mais voilà, qu'il y a des effets. Alors on va parler d'effets thérapeutiques, d'effets de surcroît, peut-être qu'on en parlera un petit peu.
Ouais, on va en parler, bien sûr. Ouais.
Mais
ouais.
C'est certain qu'il y a un effet bénéfique et on est là pour en parler.
Et alors, Olivier Rabereau, qui est venu dans nos studios précédemment, il participe à ces ateliers, il est musicien, hein, il joue de la basse. Alors, Pierre, vous avez un instrument, vous chantez
La guitare.
Ah, d'accord, ok.
La guitare, oui.
Et donc, on peut vous retrouver sur les morceaux avec lesquels est venu Cisco cette
année. J'essaye, je ne vous cache pas que c'est mon grand plaisir de pouvoir y participer, alors de façon très en pointillé, comme on dit, mais voilà, j'ai assisté à quelques ateliers et j'ai participé aussi, oui, j'ai posé quelques accords de guitare.
Hein, guitare sèche ou électrique?
Les deux.
Les deux. On va saluer aussi notre troisième invité dans les studios. Aujourd'hui, c'est Johanna Lumazzi. J'espère que je ne prononce pas trop mal.
Lumazzi.
Lumazzi, oui. Ouais, bon, donc j'ai très mal prononcé. Donc Johanna, vous êtes musicothérapeute.
Oui, tout à fait.
À l'hôpital, enfin au centre hospitalier Sainte-Marie, c'est ça ?
Oui, tout à fait, au centre d'accueil thérapie à temps partiel.
Et ce, voilà. Depuis peu de temps, relativement
oui.
Peu de temps.
Oui, j'ai pris le poste il y a un an. Ça fait 3 ans que je suis musicothérapeute.
Ouais.
J'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur sur Toulouse. Donc, mmh. je suis entre Toulouse et Rodez. C'est assez intéressant comme histoire parce que j'étais stagiaire avec monsieur Jean-François Labitte que vous avez reçu.
Mais il m'a parlé de vous, Joana.
Voilà. Et dès
il m'a dit beaucoup de bien.
Bon, tant mieux.
Ouais.
Sinon, je l'appelle en sortant, vous allez voir. Et dès lors où il a quitté le poste pour partir à la retraite, il m'a dit « Bon, ben Joana, postule. » J'ai dit « Bon, ben ok, je postule. » Et voilà. Bon.
Vous allez nous expliquer en quoi consiste votre travail exactement et précisément, notamment autour de ces ateliers de MAO. Mais juste un petit mot, on va faire définition, hein, Joana. La musicothérapie, vous me diriez quoi si je demandais ce que ça veut dire ?
Alors, je vais vous donner ma définition à moi parce qu'on n'a pas vraiment de consensus de définition de la musicothérapie.
Ah bon, vous engueulez vous aussi là-dessus ?
Non, mais en fait, c'est une forme de thérapie qui utilise l'environnement sonore, la musique, le bruit, les instruments, tout ce qui est en fait axé sur la musique pour permettre aux personnes de s'exprimer, de lâcher prise, voilà, de se relaxer. Notre outil à nous, on sort un peu de la thérapie clinique classique qui utilise le discours et la verbalisation. Mmh. Nous, on utilise l'environnement sonore, la musique.
Vous participez à ces ateliers, là, je crois que c'est les jeudis, hein, le vendredi.
Jeudi,
hein,
et
Cisco.
Vendredi.
Vous en êtes ou ça fonctionne autrement?
Alors, quand je peux venir, effectivement, je viens, enfin, j'accompagne. Parce que si vous voulez, moi j'ai des patients que j'accueille en CATTP qui viennent aussi au CRPS.
Oh là là, alors CATTP.
Donc centre d'accueil à thérapie à temps partiel.
Ouais.
Et du coup, j'ai deux patients, mais ouais. Moi je viens pour les moments individuels parce qu'il y a le groupe et il y a aussi des séances individuelles. Donc dès que je peux, je participe lors des séances individuelles parce qu'on aime bien travailler en trio justement. On aime bien avec Cisco travailler ensemble pour un patient notamment.
Et puis que j'ai besoin de cette supervision en fait. Donc à chaque fois, effectivement, il m'accompagne sur toutes les séances quoi.
Est-ce qu'on doit nécessairement savoir jouer d'un instrument de musique ou jouer de la musique quand on est musicothérapeute, Joana?
Alors quand on est musicothérapeute, oui. Si par exemple, on doit être donc déjà musicien, on doit voilà connaître les bases de la musique, le rythme, les mélodies, on doit savoir improviser, ouais. On doit savoir créer, être très créatif. Moi par exemple, mon outil c'est le chant. Je fais un petit peu de guitare aussi parce que voilà, quand il y a un patient qui veut chanter un morceau ou que je dois accompagner un patient, etc. C'est quand même mieux de se saisir d'un instrument. Avoir le sens du rythme évidemment, enfin avoir quand même des connaissances en musique. Par contre, les patients, eux, n'ont pas besoin d'être musiciens, n'ont pas besoin d'avoir des connaissances musicales, n'ont pas besoin d'avoir des bases de solfège. On est vraiment là dans une médiation sonore, musicale, pour permettre à la personne de s'exprimer.
Ils ont juste besoin d'avoir envie de participer.
Oui, et avoir une réceptivité aussi à la musique. Ouais. Parce que souvent, ouais. On m'envoie des personnes, bon, il écoute la musique chez lui, tiens, je te l'envoie, oui, mais ça ne veut pas dire que ça va être une bonne médiation pour lui.
D'accord.
Ça peut lui apporter... Peut-être qu'il y a des personnes, qui aiment écouter la musique chez eux tout seul et c'est pas pour autant que ça va être thérapeutique pour eux. Voilà, ils aiment bien se mettre dans leur bulle, des fois écouter des morceaux et pas forcément l'intégrer dans une thérapie.
Mmh.
Donc c'est à nous aussi, musicothérapeutes, d'évaluer quel patient peut correspondre au profil en musicothérapie ou pas, quoi.
Alors on est ensemble, notamment dans ce studio aujourd'hui, pour parler d'un projet d'études universitaires de recherche que vous souhaitez mener tous les trois, et Joana en particulier, autour de la musicothérapie et en particulier ce que propose Cisco, la MAO, musique assistée par ordinateur.
Oui.
Pourquoi un projet d'études universitaires ?
Alors c'est pas un projet d'études universitaires, c'est juste déjà en fait on se saisit du projet qu'on a là avec le CRPS.
Ouais.
Pour pouvoir explorer s'il y a des effets thérapeutiques sur les personnes. Comme c'est quelque chose qui n'a jamais été fait en musicothérapie, en tout cas pas à ma connaissance, on s'est dit que c'était une chance pour nous de travailler en équipe dans un cadre médical pour pouvoir explorer avec cet outil de la MAO s'il y avait des bénéfices thérapeutiques ou pas. Mmh. En fait, il y a un intérêt dans le sens où Du coup, je parle un peu pour ma paroisse.
Allez-y.
Moi, en tant que musicothérapeute, je vois les effets thérapeutiques qu'il y a sur les patients avec la musique. Mais c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la musique électronique, donc vraiment ce côté homme-machine. Comment est-ce que la musique électronique peut avoir des effets sur les personnes? Et donc, je pense que du coup, de par le travail qu'on est en train de mener, on a en fait la chance d'avoir un terrain pour explorer cela. Et on aimerait bien être publié et avoir une validité empirique, du moins avoir une base de recherche sur cela.
Mais alors Pierre Kivitz, je rappelle, psychiatre et responsable de la filière réhabilitation psychosociale au centre hospitalier de Sainte-Marie. Comment on mesure l'effet thérapeutique de la musicothérapie, MAO ou pas ?
C'est difficile, c'est une difficulté qui est passionnante. Ça veut dire vraiment essayer de repérer ce qui est thérapeutique et dans quelle mesure ça l'est au niveau de la MAO. Alors ça passe par des outils, on fait passer des échelles d'évaluation du niveau de symptômes, de l'estime de soi, à différents stades du processus, de l'atelier. Alors les échelles ne suffisent pas, ce qu'on va faire aussi c'est une analyse qualitative à partir d'une interview structurée. Alors c'est un petit peu complexe ça, mais ça n'est pas tant que ça, on utilise ça beaucoup dans la psychologie, dans les sciences sociales, ça veut dire qu'on analyse le discours, avec aussi des logiciels qui permettent d'aller chercher ce qu'on appelle les nœuds de sens dans les discours, ça veut dire qu'on va chercher ce qui fait sens pour les patients, les participants à l'étude, à partir d'une expérience.
C'est-à-dire les mots utilisés ou ce sur quoi on y répond
les
plus longtemps que d'autres.
Les thèmes qui reviennent souvent. Ouais. Et donc, il y a un logiciel particulier qui permet d'aller chercher ces thèmes-là. Alors, il y a le logiciel et puis l'analyse qualitative qu'on fait aussi, mais à partir d'une interview structurée. Ça veut dire que tous les patients, tous les participants auront un peu le même questionnaire, la même conduite d'entretien. Mmh. Ça, c'est des méthodes très pratico-pratiques et ça permet d'extraire justement un certain niveau de preuve, parce que c'est important aujourd'hui de pouvoir montrer ce qu'on fait, de pouvoir le valider pour développer les pratiques. C'est un peu ça l'objectif aussi, c'est de faire valoir aussi l'intérêt de cette approche, cette médiation thérapeutique, comme disait Johanna. Je pense aussi que c'est intéressant pour nous, au-delà du résultat de la publication, d'avoir cette rigueur dans notre travail. C'est-à-dire que entamer une recherche qualitative comme ça, ça veut dire qu'on va faire aussi une recherche bibliographique, on va se mettre en lien peut-être avec, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques chercheurs ou quelques auteurs qui ont peut-être écrit sur le sujet. On est obligé, c'est pas toujours évident, mais c'est passionnant avec Cisco, avec Olivier Rabereau, avec Johanna, de confronter un petit peu nos points de vue, nos pratiques pour arriver à quelque chose de commun, ou peut-être pas tout à fait commun, mais de dialectiser un petit peu nos points de vue. Donc il faut aussi imaginer que le processus de la recherche nous amène aussi à une rigueur vis-à-vis de notre pratique. Et c'est assez passionnant.
Et d'ailleurs, on va continuer d'en parler dans le mag sur CFM. Après, cette musique dont tu nous as parlé, Cisco, donc, qui est le fruit d'un des ateliers que tu mènes au CRPS de Rodez sur la BBSU depuis la rentrée. Donc tu m'as dit que c'était une reprise.
C'est une reprise de Daran et les chaises.
Oui, ça me dit quelque chose.
Qui est très touchante, Je ne veux pas dormir dehors, par Yves. Et Yves, sa particularité, c'est que, et ce qui rejoint aussi un peu notre passion avec Johanna, c'est qu'il adore tout ce qui est numérique, tout ce qui va créer de la musique électronique. Donc il a vraiment participé à la création de son univers et de cette reprise, mais qui est une reprise plus électronique. Et donc on va toujours rester dans le thème. Thank you.
L'amour n'est rien.
Je préfère dormir dehors, version d'Yves, que tu salueras de ma part.
Hein, si je le saluerai.
Yves
je
n'est pas venu dans le studio, il y a Eugénie, Sylvain et Jean-Antoine, je me rappelle.
J'espère que tu nous réinviteras pour voir la suite du projet.
Avec plaisir. Cisco, donc, qui emmène grâce notamment à Pierre Kiewicz avec nous aussi dans les studios, et Olivier Rabereau, puis tous les soignants du CRPS de Rodez, ces ateliers autour de la musique assistée par ordinateur. On a vu le résultat de votre travail. Oui, c'est un travail. Sont dans les trains ou pas?
La notion de travail, ça dépend comment on l'entend. En tout cas, Johanna l'a rappelé tout à l'heure, alors si on parle de processus thérapeutique, il y a ce qu'on appelle un travail psychique. Ça veut dire quelque chose qui opère au niveau
d'accord. Travail sur eux, oui.
Voilà. Donc un travail sur eux-mêmes, mais je ne pense pas que ce soit pénible. En tout cas, ils en demandent. Ils viennent chercher Cisco même quand ils ne sont pas prévus pour l'atelier. Ils viennent. Donc non, je pense qu'il y a un travail psychique et beaucoup de plaisir. D'après ce que je peux voir.
J'ai utilisé le mot de patient pour les personnes qui participent à ces ateliers toutes les semaines au CRPS de Rodez. En tout début d'entretien, Pierre Kiewicz, vous avez utilisé le mot empêcher en me disant qu'on allait revenir parce que je me souviens, je le dénonce, Cisco il y a 2-3 semaines il disait on m'a empêché, oui c'est bizarre mais moi j'aime bien ce terme.
Il a raison, après les mots sont toujours un peu piégeants parce qu'ils sont toujours un peu polysémiques et puis ça dépend de quel regard on porte, quelle interprétation on fait, mais il y a une réalité derrière ce mot empêché, c'est-à-dire que les personnes, disons-le, qui souffrent, qui sont porteuses d'un handicap psychique, qui souffrent d'un trouble psychique chronique, elles ont quand même statistiquement un moindre accès aux dispositifs culturels artistique de droit commun. Alors pour diverses raisons, dans le détail desquelles je ne vais pas entrer, entre autres liées à leur fragilité, à leur parcours, pas que ça, il y a aussi toute la dimension d'inclusion qui fait peut-être défaut aussi dans le contexte social et sociétal actuel, il y a cette dimension-là, mais le fait que ce public soit un peu empêché, oui, et qu'il faut aller le chercher parce qu'il a des choses extraordinaires à montrer, à exprimer, et grâce notamment à des émissions comme celle-ci, où ils peuvent même venir témoigner de ce qu'ils vivent, oui, public empêché, ça existe, c'est une réalité.
Et les émissions précédentes avec Cisco, notamment, puis tous les invités, on peut les retrouver en podcast sur cfmradio.fr. La semaine dernière, c'était avec Eugénie, Sylvain et Jean-Antoine, et c'était super, super souvenir là aussi. Je reviens à cette étude, Johanna, Pierre et puis Cisco. Mais Cisco, il va faire quoi là dans l'étude? Cisco, il n'a pas une tête de scientifique.
Je suis pas un scientifique. Enfin, si, j'ai plutôt ma partie. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on est... Il l'a bien dit Pierre, on va confronter en fait des postures professionnelles. Moi je viens plutôt de effectivement la médiation culturelle. Et même si en ce moment, voilà, Johanna, Pierre et Olivier me font vraiment réfléchir et repositionner sur mes pratiques. Déjà bon, j'étais dans cette réflexion entre les pratiques thérapeutiques, culturelles, mais il y a déjà des études qui ont été faites au niveau médiation culturelle. Là où c'est hyper intéressant, et là où ça, effectivement, ça me bouscule, mais en même temps, ça me rassure, c'est qu'on va avoir une étude concrète au niveau du soin. Et c'est vrai que ce qui nous a lié un peu avec Johanna, la rencontre qu'on a eue, c'était aussi sur ce qu'on appelle la musique électronique, en fait, la musique numérique.
Alors justement, on va revenir sur les deux points, l'aspect soin et l'aspect musique assistée par ordinateur, musique électronique. Johanna, c'est vous qui avez souhaité en particulier mener cette étude sur la MAO, parce qu'il n'y en a jamais eu, et que pour vous...
Oui, en tout cas pas à ma connaissance, effectivement.
Oui, mais vous savez tout. Donc, et pour vous, il y a quelque chose?
Oui, tout à fait, il y a quelque chose à faire, parce que c'est vrai que c'est quand même une sphère qui est souvent empêchée. Même là, on le voit au niveau de la culture.
Mais c'est
pareil pour tout le monde. Ouais. On va pas rentrer dans le débat, mais c'est dans le sens où c'est une musique, c'est une forme musicale, pardon, qui est assez stigmatisée. Même moi, parfois, j'ai été confrontée à des musicothérapeutes qui m'ont dit que c'était pas de la vraie musique. Donc, je ne comprends pas, en fait, pourquoi l'apport numérique digital devrait être différent de l'analogique, donc qu'on peut retrouver avec les instruments, la voix, etc. Parce que j'ai la chance aussi de le voir En séance, par exemple, il y a des patients qui aiment bien travailler avec de l'ambiante, avec de la techno, voilà, qui prennent du plaisir là-dedans. Et on remarque vraiment un certain lâcher prise. On remarque aussi un changement de comportement lors de la séance de par cette approche musicale où ils se retrouvent un petit peu là-dedans, où il y a des choses qui se passent. Justement, qu'est-ce qui se passe avec ce style de musique-là? Alors, c'est pour ça que nous, on a voulu l'explorer. Et je trouve aussi que c'est innovant parce que ça n'a, ben voilà, comme on l'a dit, ça n'a jamais été fait. Et on a vraiment de la chance, en fait, d'avoir un terrain qui nous permet de l'observer.
Alors, cette étude que vous avez débutée, Pierre, le but, c'est de, un, de rappeler ou de montrer que la musicothérapie peut avoir des bienfaits et si oui, lesquels. Et deux, à l'intérieur de ça, la musique assistée par ordinateur, de la même façon, est-ce qu'elle a des bienfaits différents, les mêmes, dans quelle mesure, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est d'aller chercher un petit peu les effets thérapeutiques, de mieux les cerner, effets thérapeutiques spécifiquement liés à la MAO. Moi, je ne connaissais pas ce domaine-là, enfin, j'avais entendu parler, j'écoute un peu de musique électronique aussi, mais la pratique de Johanna au niveau musicothérapeutique et la pratique de Cisco avec la MAO, je la connaissais pas, donc dans les institutions. Par contre, je suis frappé de voir à quel point, alors je vais essayer de le dire simplement, c'est à la fois une médiation accessible, c'est-à-dire que les patients, les usagers entrent facilement dans cette dynamique de médiation, se prennent au jeu, et se prendre au jeu, c'est très important la médiation, parce qu'il y a un espace de jeu justement où vont déployer certaines choses, mais ce n'est pas si simple que ça, c'est simple d'accès, et après il y a vraiment un travail de complexité croissante dans les enregistrements, les reprises, les répétitions, la possibilité avec l'aide de Cisco de pouvoir travailler la composition, l'enregistrement, le mixage des morceaux, il va vraiment assez loin. Donc vous voyez à la fois simple d'accès et à la fois une complexité de travail qui, à mon avis, correspond au travail psychique possible dont on parle dans le processus thérapeutique. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y a vraiment une richesse que je découvre actuellement, parce que moi, je ne connaissais pas la pratique de Cisco ni l'idée de Johanna. Donc, c'est ça qu'on aimerait bien cerner un peu mieux, circonscrire et pouvoir le mettre en valeur.
Montrer, oui. Parce que oui, c'est vrai que, excuse-moi Cisco, mais la musique électronique, dans un premier temps, c'est vrai que c'est plus facile à aborder qu'un instrument, un violon, une guitare pour apprendre. Non, mais pour... Tu sais, à 5-10 heures,
pas
moi,
tant que ça.
À mon époque, t'appuyais sur un bouton, ça te faisait une chanson.
Non. Alors là, je le redis. Effectivement, c'est quelque chose qui m'irrisse le poil. Quand je fais des ateliers, qu'on me dit, ah, mais en fait, c'est simple, je vais acheter Ableton et puis on va pouvoir continuer sans toi. Et non, parce que, effectivement, derrière chaque musicothérapeute, alors moi, et là, je parle pour Johanna, mais il y a quand même une culture personnelle, une pratique, une compétence, un savoir-être, un savoir-faire. Et ça, si on enlève, en fait, tous ces petits paramètres, on n'obtiendra pas la même chose. Et la musique électronique fait partie quand même, c'est entièrement une entrée culturelle. Une de mes particularités, je ne veux pas faire de médiation au rabais. Quand j'interviens, la finalité, je veux, donc pour le public et là pour les patients, qu'elle soit qualitative. Elle va aussi dans ce rapport de l'estime de soi. J'ai pas envie d'arriver, comme j'avais dit, la position du super artiste. Moi, je sais, et puis je vous emmerde, je vais vous en montrer, vous en foutre plein la vue, parce que je peux vous noyer facilement, mais comme tout praticien, même d'instrument analogique. Non, le but, c'est quand même qu'il y ait cet aspect thérapeutique, qu'il y ait cette estime de soi. Donc, quand j'entre dans ce projet, je veux que même la finalité soit qualitative pour eux, et pas pour le projet, pas pour mon propre ego. C'est pour eux.
Bon, d'accord. Okay.
Je pense dans toute approche thérapeutique, même si encore une fois il faut faire attention, là on est sur une pratique artistique dans le cadre d'un projet qui vise pas forcément le processus thérapeutique. L'effet thérapeutique il vient de surcroît dans ce projet, mais on aimerait aller le mesurer, le comprendre mieux en fait. Et je disais l'autre jour à Cisco que pour l'instant l'étude elle est en cours, donc les résultats on les a pas, mais il y a déjà toute une observation sur le terrain.
Alors ça donne quoi
l'observation? Alors moi je suis assez positivement surpris de l'impact. Et j'ai essayé de formaliser ça un peu en discutant avec Cisco et avec Olivier, un petit peu avec Johanna, de voir à quel niveau ça se situait. Et ça, c'est le propre de la réhab aussi, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. On peut parler du niveau clinique, c'est-à-dire un apaisement, des symptômes résiduels, de l'angoisse, des affects dépressifs. Bon, il y a peut-être un effet à ce niveau-là, on va essayer de le mesurer avec l'étude qu'on est en train de réaliser. Mais ce que je vois aussi avec des participants qui viennent chaque semaine avec assiduité dans ce groupe où ce co-créer une espèce de d'œuvre artistique de séance en séance, je vois des effets cognitifs aussi, attention, concentration, mémoire. Il faut voir aussi comment Cisco exige des participants un engagement quasi corporel aussi dans la musique, parce qu'il y a une dimension, je pense, vraiment physique et corporelle, donc des attitudes aussi praxiques, comme on dit. Ça, c'est le niveau cognitif, en lien avec le niveau clinique. Ce que je commence à voir aussi, parce que je connais bien aussi les usagers qui participent à ces ateliers, c'est un effet plus global qui est lié à la médiation. C'est-à-dire quand on a... Alors ça, c'est pas, peut-être pas propre à la MAO, il faudra essayer d'aller voir ce qu'il y a de spécifiquement lié à la MAO, mais quand on a une pratique artistique, on projette toujours une part de soi-même. Ça, c'est valable pour nous tous. Hein. Donc on projette une part d'intériorité et éventuellement une part d'intériorité qui peut être un peu difficile ou en souffrance et qui va trouver dans cette médiation une forme d'apaisement et de résolution. Ça, c'est le propre de la médiation. Ça, on le repère aussi chez bon nombre de patients. Donc c'est un autre niveau, un niveau plus on va dire psycho-affectif. Autre point important qui est plus spécifiquement lié à la réhab, alors ça c'est très simple, c'est la confiance en soi et ce qu'on appelle l'identité positive chez des personnes pour qui cette identité elle était fameusement érodée et gratinée par le parcours de la maladie. Donc retrouver une identité positive et cerise sur le gâteau quand ils finissent une émission de pouvoir dire ce qu'ils font. Je pense que c'est très important pour la réhab parce que c'est vraiment un objectif qu'on a au-delà du soin. Je vois aussi au niveau du groupe ce qui se passe. Donc c'est des personnes qui se rassemblent et qui doivent travailler ensemble sur un projet commun. Écoute de l'autre, compréhension de l'univers psychique de l'autre pour avancer dans ce projet. C'est ce qu'on appelle aussi la cognition sociale. Donc c'est l'aptitude à repérer aussi les états mentaux d'autrui. On en est tous là, hein, mais je veux dire, il y a un travail thérapeutique effectif en termes de cognition sociale. Et puis niveau encore au-dessus, c'est l'effet global pour un centre de réhabilitation. C'est-à-dire que c'est un projet qui fait vivre le centre. Et dans la réhabilitation, il y a cette notion aussi de participation citoyenne à la vie culturelle de la cité. Et là, il se passe quelque chose. Alors, comme il s'est passé aussi d'autres choses avec d'autres projets, mais celui-là en particulier fait vivre le CRPS, fait vivre les patients qui sortent du centre. On espère un jour qu'on aura la possibilité, on le faisait avant le confinement, d'ouvrir le bar thérapeutique pour un concert. On avait du public. Et ça, c'est une dimension de la réhabilitation. C'est pour ça que la réhabilitation, ça va au-delà du soin et que peut-être avec cette médiation spécifique, on a un atout de plus qui rencontre les principes et les objectifs de la réhabilitation.
Donc ça veut dire que ça s'inscrit dans une panoplie de possibles, thérapies possibles. Ça apporte des choses différentes que d'autres façons de traiter, enfin de s'occuper de ces personnes, ou c'est un choix parmi d'autres mais qui correspond à des bienfaits qu'on peut retrouver dans d'autres conditions.
Moi, je crois qu'il y a une spécificité, justement. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a, il y avait quand même, il faut le dire aussi, un atelier musical depuis quelques années au CRPS. Hein.
Ouais.
Et donc, il y a aussi un effet de rencontre entre la pratique de Cisco et un atelier musical qui avait déjà lieu au CRPS, qui est toujours d'ailleurs animé par Olivier Rabouri, que vous avez reçu, et qui l'anime vraiment au sens fort du terme. Hein. Ce groupe a vraiment une âme, quoi. Et je pense que Cisco est venu, avec sa pratique, rencontrer ce projet et cet atelier déjà existant. Et l'avantage de la musique, me semble-t-il, alors je ne sais pas si mes collègues sont d'accord, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se partager. Et la dimension du partage à partir de la production, de l'œuvre réalisée, elle est importante. Alors, en termes de réhabilitation, peut-être pas pour le processus thérapeutique individuel. D'ailleurs, il y a des usagers qui viennent et qui disent « Mais non, moi, je ne dois pas aller plus loin. Je n'ai pas envie de, je sais pas, moi, d'exposer si c'est de l'art pictural ou voilà. » Mais là, pour la réhab, cette dimension de citoyenneté, de reconnaissance de ces personnes, on est au cœur du sujet, quoi. Je sais pas. Donc, c'est pour ça que je parle de plusieurs niveaux. Presque, on peut les voir comme des niveaux qui s'emboîtent et qui s'influencent mutuellement.
Johanna?
Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il y a effectivement plein d'effets sous-jacents qui interviennent. Hein, même moi, du coup, comme je fais un petit peu le lien avec ce projet et ce que je vois aussi dans ma pratique au CATTP, j'ai des patients qui me font des retours. Oui, le CRPS, c'était bien. J'aime bien retrouver le groupe. Les machines, j'adore. Ça se passe bien avec Cisco. Il y a vraiment un retour positif. Et on peut aussi effectivement émettre l'hypothèse qu'il se passe quelque chose d'un peu plus latent, alors que peut-être on connaîtra jamais parce que ça les regarde et que, mais en tout cas nous on le voit au niveau comportemental et même au niveau du discours, il se passe quelque chose et c'est quand même axé sur quelque chose de positif.
Johanna, cette étude donc elle a débuté. Elle a un début, donc elle aura une fin. C'est pour quand?
Le projet s'achève en mars. Ça fait 3 mois qu'on est dessus.
Oui.
Donc on est sur une observation sur la durée. où on fait les mesures en trois temps. Donc, on a fait de remplir des échelles et on a aussi...
Des échelles, c'est des questionnaires, c'est pour...
Oui, c'est des questionnaires qui évaluent la symptomatologie de la dépression et de l'anxiété que l'on peut retrouver dans toutes les pathologies en psychiatrie.
Mmh. L'estime de soi aussi, une échelle. L'échelle de Rosenberg.
Et l'échelle, effectivement, de l'estime de soi. Donc, en fait, l'intérêt de faire trois mesures...
Et vous faites à l'entrée et à la sortie, c'est ça, un peu?
Donc l'intérêt, en fait, c'est qu'on fait trois mesures pour voir s'il y a une évolution dans le temps, en fait, du patient, en fait. Et on essaye de voir s'il n'y a pas un lien entre les mesures qu'on a établies et la conduite du projet. Donc, en fait, si y a la symptomatologie anxieuse et dépressive qui est amoindrie, on peut émettre l'hypothèse que ça peut être grâce à l'intervention de la musique, enfin du groupe. On est en train, on est vraiment sur quelque chose d'exploratoire là.
Et on recoupe ça aussi avec l'interview dont on parlait.
Et
ça c'est très important parce que c'est ça qui est difficile et je le répète, passionnant. Hein, mais le propre de toute étude comme ça qui cherche à montrer des effets, c'est qu'il faut tenir compte des facteurs intercurrents, des impondérables. Et il y a énormément de facteurs qui influencent.
Mais on n'est que sur de l'hypothèse. Hein, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'exploration. De toute façon, on est sur quelque chose de qualitatif, un peu quantitatif aussi, mais on est vraiment quelque chose de... Enfin, on est sûr de l'exploratoire et on essaye de voir si il y a une évolution ou pas, et d'où l'importance, effectivement, de l'entretien qui pourra peut-être valider les hypothèses auxquelles on a pensé. Est-ce que oui, effectivement, ce projet, cette médiation, la MAO, le groupe, a pu apporter quelque chose aux patients ou pas, enfin, voilà. Mais...
D'accord. Donc, pour le mois de mars, si tout va bien, cette étude...
Mois de mars, le projet s'achève, l'étude ne sera pas... Mars, je pense qu'on sera...
On a les matériaux, après, il faut...
En toute honnêteté, on ne sait pas trop.
Il faut le trier, le travailler, et puis le rédiger, le présenter.
Oui, il faut rédiger, il faut que ce soit validé
Ils nous ont
aussi
fait le vaccin pour le Covid en 8 mois. Donc, vous allez pouvoir faire mieux ou pas?
Non, mais il faut qu'on se mette une deadline, effectivement. Mais oui, de toute façon, peut-être avant cet été,
Oui, sûrement. Oui.
Bon, bah, j'espère que vous reviendrez nous en parler.
Oui.
Hein, Johanna nous a envoyé une cinquantaine d'articles en anglais.
Oui. Ne me remerciez pas, c'était avec plaisir.
Travailler la bibliographie.
Mais en fait, c'est là aussi que c'est très difficile et c'est passionnant. Comme tu disais, c'est qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites sur la MAO et les effets thérapeutiques. Donc, on doit tout construire. On doit tout chercher et on doit faire le lien et pas partir non plus dans l'interprétation hâtive. Il faut rester très humble, il faut rester en recul. On a tout à créer, quoi.
Bon, eh ben écoutez, on sera curieux d'en entendre parler quand vous aurez fini.
Voilà.
Avant l'été, j'ai bien noté sur CFM pour cette publication derrière qui viendra. Hein, j'imagine, ça doit être aussi votre souhait, votre envie pour partager ce savoir, cette connaissance que vous êtes en train d'acquérir au CRPS de Rodez à travers ces ateliers de MEAO avec Cisco, Olivier Rabereau, Pierre Kivitz et tous ceux qui participent. Hein. Il y en a combien depuis la rentrée qui participent de personnes, grosso modo.
On Pierre, est sur, de l'aide. Parce que
les usagers du collectif. On est à une quinzaine, en comptant qu'il y a des ateliers collectifs de groupes, et puis il y a pas mal aussi de projets individuels ou en duo. On est en train d'agencer ça au fur et à mesure de l'avancement du projet, puisque le but aussi, c'est d'agencer la création artistique, hein, c'est quand même, il y a quand même un but aussi de travail artistique en fonction de ce que les patients eux-mêmes amènent, en fonction de leur potentiel qui s'exprime au fur et à mesure de l'atelier, parce qu'on ne savait pas forcément où on allait au départ. On est parti d'un grand groupe, on l'a scindé en deux, il y a des duos, il y a quelques projets individuels aussi.
D'accord. Voilà. J'ai cru comprendre donc que vous aviez de la lecture en langue de Shakespeare pour les fêtes, là, scientifique. Donc c'est très très bien. Les ateliers, ça se poursuit pendant les fêtes ou on fait un break?
Je pense qu'on a prévu, on a un calendrier, il y a un break là durant les fêtes.
Un petit break. Aussi, Cisco?
Moi, je fais un break.
Tu es jamais en break, toi?
En tout cas, je vais prendre ce temps pour
lire
bien
les
me préparer dans la lecture de tous les articles que j'ai reçus. Parce que je pense qu'en plus, moi, je vais devoir rattraper un peu le wagon. Quoi. Vraiment.
Et puis, il va nous faire la traduction aussi, c'est ce qu'il vous a pas dit.
Non.
Bon, merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans nos studios.
Merci
au plaisir,
merci
passez de bonnes
vous.
Fêtes.
Merci
et puis à très bientôt en 2021 pour la suite de cette aventure, de cette expérience,
merci,
en tous les cas.
Merci.